Le commentaire de Jeannie Dandonneau.
Jeannie, oui, c'est pas du corps à corps, mais on parle des corps dédiés à la science.
Oui, on fait quoi avec notre corps une fois qu'on meurt?
Est-ce que vraiment il y a des gens qui veulent de nos corps? Lorsqu'on est mort.
Ben oui, il y en a qui en veulent. En fait, c'est que l'idée m'est venue, c'est que moi, je suis tombée sur un article d'Urbania qui parlait justement de qu'est-ce qui arrive avec les corps lorsqu'on les donne à la science.
Oui.
Et là, j'ai vu qu'à l'Université de Sherbrooke, on en utilise pas mal des corps. Ah. Et j'ai fouillé un peu le dossier pour voir on en prend combien, puis qu'est-ce qui arrive, puis est-ce qu'il y a une pénurie de corps?
Non, mais on manque de corps pour développer la science.
Mais la bonne nouvelle à Sherbrooke, on manque pas de corps.
Bon!
Donc, c'est la bonne nouvelle.
Mais ça veut dire qu'il y a bien des gens qui signent les documents comme quoi on peut utiliser leur corps quand ils seront morts.
Effectivement, il y en a plus que je pensais parce qu'on refuse des corps à l'Université de Sherbrooke. Annuellement, là, on en utilise environ 80 et ils reçoivent là, plus ou moins le 150 dons de corps.
Oui.
Mais il y en a 80 là, qu'on est en mesure d'utiliser. Puis on se le cachera pas, là, le corps... faut le garder dans le frigidaire, faut le garder à la morgue, le corps. Et donc, à un moment donné...
Ça prend des espaces dédiés.
Il y a une question d'espace, il y a aussi une question d'utilisation.
Ouais. Mais moi, je ne serais pas offusqué s'ils ne prennent pas le mien en passant. Là.
Mais il y a des critères aussi pour...
Okay.
Entre autres, le poids, l'âge, faut absolument que le corps soit majeur, là, 18 ans et plus.
Okay.
Autre critère, faut que vous soyez en bas de 250 livres.
Ben là, je suis pas pire.
Ben non, je ne dis pas... Mais j'étais surprise.
Ça serait pas un critère d'exclusion dans mon cas, pas encore.
Mais pour vrai, j'étais vraiment surprise. Et aussi, c'est que ça dépend là, des différentes. Il y a 6 endroits au Québec où on accepte les dons de corps. Et c'est quand même intéressant de voir. Et moi, j'étais quand même rassurée de voir qu'il y avait quand même bien des gens qui étaient prêts à donner leur corps à la science. Parce qu'on va se le dire, tu sais, lorsqu'on fait notre testament, lorsqu'on parle à la famille, on est habitué de parler
de dons d'organes,
d'être ouvert à ce que notre corps serve à d'autres pour perpétuer la vie. Tu sais.
Mais de ce dont tu parles, Jeannie, il y a bien des gens qui apprennent que ça se fait.
Ben, exactement. C'est surtout l'utilité de tout ça. Parce que les étudiants, tu sais, dans le fond, c'est un choix que tu as à faire. Soit que tu donnes ton corps pour aider des personnes à vivre aujourd'hui, ou tu donnes ton corps à la science en espérant évidemment que les personnes qui vont apprendre grâce à ton corps, qui eux seront en mesure de garder plus de gens vivants. Ben, puisque c'est bien beau se pratiquer sur des mannequins, sur du plastique, mais veut pas, il n'y a rien qui peut qui équivaut à la texture d'une peau humaine, à la façon que les vaisseaux sont faits aussi dans le corps humain. Et nécessairement, ça prend des gens qui décident de donner leur corps. Mais
L'expression « donner son corps à la science ».
Oui, mais c'est pas juste ça aussi, c'est d'en parler avec la famille, tout comme le don d'organes.
Ouais, ouais.
Parlez-en à la famille. Oui, vous pouvez remplir le formulaire, remplir la carte de don pour offrir votre corps à votre décès. Mais si vous n'en parlez pas à la science, si vous n'en parlez pas à votre famille, il risque d'avoir une mauvaise surprise.
Okay.
Parce que veux pas, si tu donnes ton corps à la science...
t'es pas incinéré, t'es pas enterré.
C'est toute la procédure au niveau du décès, y a rien.
C'est sûr.
Y a rien, parce que dans le fond, le corps, lorsqu'il est donné et accepté par l'endroit qui, prend les corps...
C'est intéressant, on va sauver sur le corbillard.
Effectivement, les frais sont, sont pris par l'établissement qui accepte le corps. Et on l'utilise, ça varie de quelques mois jusqu'à un maximum de 4 ans. Et après 4 ans, ce qui arrive, ça dépend aussi comment... Parce qu'il y a 3 catégories
comment
de corps.
Comment c'est conservé?
Il y a les corps frais, où on travaille sur le corps tel qu'il est. Donc, on va s'entendre qu'on ne fait pas long feu avec. Il y a le corps embaumé, qui sert aussi à l'enseignement.
Okay.
Et les corps plastifiés. Donc, c'est l'intérieur du corps qui est remplacé par du silicone.
Ah!
Donc, au niveau de la texture, au niveau de l'apprentissage pour les étudiants. Et les corps frais...
On est empaillés. Pas empaillés, comme
non,
on dit ça.
Non, parce que c'est comme embaumé. Fait que ça varie.
Je me sentirais comme un chevreuil dans le salon chez mon oncle dans le temps, là, qui avait fait naturaliser.
Mais au Québec, le laboratoire de plastination, là où on change ton corps en plasticine, si tu veux, on est le seul laboratoire à Sherbrooke.
Ah oui?
Donc c'est,
c'est vraiment dans notre cours,
ça, c'est unique à l'Université de Sherbrooke, donc on peut être fier de ça.
On apprend des affaires.
Et là, nécessairement, lorsqu'on veut souligner le travail des personnes... qui décident de donner leur corps à la science, parce que comme je te le mentionnais, au niveau du rite funéraire, on le perd un peu, mais après quelques mois ou un maximum de 4 années, si la famille veut ravoir le corps incinéré, c'est possible de le faire. Mais sinon, à chaque année à Sherbrooke, il y a une cérémonie où les familles sont invitées à visiter le laboratoire et à souligner le travail et le don des personnes qui ont fait don de leur corps à l'Université de Sherbrooke. Et d'ailleurs, cette cérémonie-là va se dérouler ce vendredi, le 20 septembre, et l'ensemble des personnes qui ont offert leur corps, leurs noms, sont inscrits sur une plaque commémorative.
Okay.
Donc, ces gens-là, à vie, dans le fond, leur mémoire sera conservée et sera présentée parce qu'effectivement, c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs dons qu'il y a des étudiants qui peuvent pousser plus loin leur apprentissage, se pratiquer. On pense entre autres aux chirurgiens là, sur les corps frais.
Oui.
Veux pas, pour se pratiquer, si vous voulez de bonnes performances de vos chirurgiens, c'est important qu'ils puissent se pratiquer sur de vrais corps et c'est grâce à ces dons-là qu'on est capable de le faire. Donc franchement, je trouve ça important de souligner le travail. Et si jamais c'était une réflexion que vous aviez, ben sachez que c'est pas juste... Tu sais, des fois, on dit « Ah, je donne mon corps à la science », puis on s'imagine quasiment là, des aliens qui vont venir faire des tests weird sur nous autres.
Peu importe, de toute façon, t'es mort.
Non, mais quand même. Tu sais, il y a l'espèce, on dirait, de respect du corps.
Ça me dérange pas qu'ils viennent me chercher, au contraire, tu sais. Non, mais sans blague, bien des gens ne sont pas au fait de ça.
Non, effectivement, ben c'est toute la procédure aussi qui vient avec.
De ne pas être simple.
C'est pas simple. Okay. C'est sûr qu'il faut aviser. Donc,
le
mieux vaut le préparer. Le notarier, là, dans votre testament, c'est vraiment ce qui est le plus facile.
En tout cas, je suis certaine qu'il y aurait des spécimens à avoir.
Mais j'étais surprise pour le poids. Non, mais dans le sens...
Ben non, mais ça doit être une question de conservation, puis...
Le tiroir,
peut-être.
Il est pas infini, mais en même temps, avec une population qui est toujours de plus en plus grosse, je me dis, il y a quand même quelque chose à apprendre un gros corps.
C'est sûr. Mais en tout cas, intéressant. C'est drôle, parce que tantôt, on parlait du fameux Beyond Meat, puis des comparatifs. Madame est tannée?
Ben, je suis tannée d'en entendre parler, qu'à chaque fois, on revienne là-dessus, que non, c'est pas si santé que ça. Il y a personne qui a eu la prétention que des viandes végétales, c'était plus santé. Écoute, on s'entend. Le fabricant...
On n'a pas entendu les mêmes personnes argumenter là-dessus.
Non, mais on prétend que...
Ouais.
Je veux dire, un burger fait de plantes... Je veux dire, si vous êtes assez innocent pour croire que parce que c'est fait de plantes, que c'est plus santé, vous êtes complètement dans le champ. Les nutritionnistes nous disent que c'est important de manger plus de végétaux, plus de fibres. OK, manger ta pomme, tu sais, mange ta pomme, mange ta carotte. Je te donne un cue. Si ta pomme est devenue une galette, il y a des bonnes chances qu'elle soit transformée. Et comme n'importe quel aliment, les nutritionnistes vont vous le dire, un aliment transformé est moins bon qu'un aliment frais. Votre galette Beyond Meat, elle est transformée, qu'importe la compagnie avec qui vous allez faire affaire.
Il y a plusieurs additifs, fait que
nécessairement, si vraiment... Puis les vrais végétariens qui ont un souci sincère de leur santé, là, pas les pseudo-végétariens ils vont pas le manger, puis ils vont surtout la faire.
Ouais.
Il y a tellement de recettes qui existent pour faire tes propres galettes, que ce soit avec du quinoa, exactement, avec ton propre montage à la maison. Oui, c'est un petit peu plus long, mais si vous mangez du Beyond Meat pour vous donner bonne conscience en faisant semblant que vous mangez santé, bien, vous êtes juste carrément dans le champ, puis vous êtes fait pogner par le marketing qui est lié à ces dites galettes-là. Puis vous vous faites pogner aussi par les différentes compagnies, que ce soit Restauration Rapide et autres, qui vous vendent de toute façon la galette 1 ou 2 piastres plus chère parce qu'ils disent que vous allez vous sentir moins coupable de manger votre gros burger avec votre gros Coke puis votre frite à côté.
Puis eux vont faire la piastre.
Ben oui, ils vont faire la piastre.
Sur le dos de la bonne conscience.
Voilà. Fait que moi, je mange mon quinoa, puis j'ai cœur personne avec ça.
Histoire d'une fiancée.
Oui. Martin, lorsqu'on se fiance, on est bien excité. Là, on a notre bague.
T'as connu ça, toi?
J'ai connu ça. Je ne la porte plus. mais quand, à l'époque, jadis naguère, t'es bien énervé d'avoir eu ma bague.
Oui.
Fait que là, tu sais, tu la montres à tout le monde, tu la gardes plus longtemps. Et là, c'est arrivé à une fan de San Diego, aux États-Unis. Elle s'est fait fiancer, elle était bien heureuse, elle faisait dodo avec sa bague. Et là, elle a fait un cauchemar, Martin.
Non!
Dur cauchemar. Et là, elle a rêvé qu'elle affrontait des méchants dans un train.
Hein?
Et là, son chum, dans son rêve, lui disait « Chérie, avale ta bague pour ne pas que les voleurs ne te la volent. » Et dans son sommeil, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait?
Elle a pas avalé sa bague.
Elle a avalé sa bague.
Ben voyons.
Fait que là, le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle trouve plus la bague parce que la bague est plus dans le doigt. Là, c'est ben voyons, cherche dans les couvertes, cherche dans le lit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle se rappelle son rêve. Elle dit, chérie, je me suis rappelé que dans mon rêve, tu m'as dit d'avaler ma bague. Elle dit, ben là, tu penses vraiment que tu l'as avalée? Je le sais pas. Rendez-vous à l'hôpital, fais des radios, qu'est-ce qu'il trouve?
La bague.
La bague. Mais là, compte tenu de la position de la bague, finalement, il a fallu qu'elle se fasse opérer. Carrément pour retirer, au lieu qu'elle suive, disons, le
la
cours
naturel.
La voie naturelle. Et, mais finalement, écoute, ça a pris une chirurgie pour ôter le bijou.
Ben voyons.
Et,
parce qu'on s'entend qu'à la voie naturelle, ça aurait pu aussi causer certains dommages.
Ben,
dépendamment de la bague.
Oui, et du grosseur.
C'était un jonc ben... ou c'était un genre de pinote.
Ben, une petite pinote. Oh. Un jonc, ben, un solitaire, là. Donc, okay. c'est la belle bague avec le diamant là, sur le dessus.
Oui, ben c'est ça, mais le diamant aurait pu faire un tannat de beau dégât.
Mais apparemment que la dame était bien heureuse de se faire opérer.
Okay.
Selon elle, s'il avait fallu qu'elle fouille pour retrouver le petit bijou, elle aurait eu de la misère à regarder la bague par la suite dans son doigt. C'est sûr,
ouais,
ça te rappelle
ça
un autre souvenir.
Ben, attends, là, ça a pris quand même le même chemin. Là. Je veux dire, je comprends que ça n'a pas abouti à la fin de la tuyauterie, sauf qu'il y a une partie de la tuyauterie que t'es dans pas mal... Là, c'est, excusez pour ceux qui mangent, là, mais t'es pas mal dans la même boîte. Là.
Ouais, je veux bien, mais au moins, c'est pas elle qui l'a nettoyé. Tu sais, quand c'est toi qui fouilles, puis que avec la brosse à dents en train de frotter...
Ouais,
là.
Puis ça dépend ce qu'ils sont allés à chercher.
Oh.
C'est, non, non, mais c'est vrai. C'est ça, pareil. Tu me racontes cette histoire-là, puis...
Elle m'a rendu là.
Puis ça fait partie des histoires dans les hôpitaux qu'on nous raconte pas souvent.
Mais ils s'en parlent.
De ces gens qui arrivent à l'urgence avec des bien drôles d'affaires dans le corps.
Des fois,
ou pris avec des instruments quelconques.
Que soit soi-même à utiliser, avaler ou entrer, dont la sortie est difficile.
Ouais. Il y a probablement des infirmières outries qui pourraient nous en raconter pas mal et de ces médecins urgentologues et tout.
Effectivement.
Oui.
On en a tous entendu, on a vu des émissions là-dessus. On salue les gastro-entérologues qui, eux, ont souvent de très bonnes histoires.
Si vous en avez, martin.pelletier@fm1077.ca. Jeannie, c'était merveilleux. Merci, à demain.
À demain.